Sylvain Delzan, je suis directeur de recherche INRAE Bordeaux. Je suis chercheur en écophysiologie et je suis donc les forêts et notamment la réponse des forêts au changement climatique au sens large. Je suis dans une unité mixte de recherche entre INRAE et l'Université de Bordeaux. Et nous avons la chance d'avoir une forêt expérimentale à l'Université de Bordeaux, dans laquelle on a 7 espèces qui sont instrumentées en continu. Et donc, on peut regarder l'impact des événements climatiques sur la réponse physiologique de ces arbres. Voilà pour la présentation. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est de la réponse donc des forêts au changement climatique au sens large. Donc si je parle globalement, il va falloir qu'on distingue un petit peu de ce qui est de l'élévation moyenne de température et qui a un impact notamment. Un impact sur la phénologie foliaire, la reproduction, la croissance des arbres. Et d'autre part, les aléas climatiques avec les événements climatiques extrêmes, par exemple, qui eux ont plutôt un impact, si je résume, sur la mortalité des individus. Alors, si je commence, je balaye un petit peu les recherches qu'on a menées sur l'élévation de température moyenne et notamment la réponse des arbres en termes de phénologie, de croissance. Donc la phénologie, je rappelle que c'est la date d'apparition des feuilles. On voit que les espèces forestières ont une très grande capacité d'adaptation, soit via la diversité génétique, soit via de la plasticité des individus, c'est-à-dire que les individus sont capables de changer la date d'apparition des feuilles en fonction de la température. Et donc on voit que le chêne, par exemple, est capable d'avancer sa date de feuillaison d'une semaine pour 1 degré d'augmentation de température, alors que le hêtre, lui, au contraire, c'est que 2 jours pour 1 degré de température. Donc, le changement climatique impacte la date de feuillaison des forêts et, comme cet impact est différent entre les espèces, peut modifier la balance compétitive entre les espèces. Certaines espèces vont être plus favorisés que d'autres, etc. Donc ça, on pourra en reparler, je pourrais reprendre des questions là-dessus, mais la deuxième partie, qui est peut-être le sujet central aujourd'hui, ce sont plutôt les aléas climatiques. Donc les aléas, quels sont-ils? Je ne vais pas tous les lister, mais il y a les tempêtes, les sécheresses, les canicules et les incendies qui sont des aléas climatiques qui sont favorisés par le changement climatique. Donc moi, je suis spécialisé plutôt sur les événements de sécheresse et canicule. Donc je vais me focaliser mon propos là-dessus. Mais il faut savoir que le changement climatique peut aussi accentuer les aléas biotiques. Je viens de citer les aléas abiotiques, hein, mais donc les aléas biotiques, puisqu'ils peuvent favoriser, par exemple, la remontée de ravageurs ou les dégâts occasionnés par les ravageurs. Hein, on peut citer les scolytes, les processionnaires, les pucerons, les chenilles défoliatrices, etc. Les maladies, hein, ce qu'on appelle les agents pathogènes, notamment champignons, bactéries, tout micro-organisme. Donc, on peut aussi citer quelques maladies comme l'encre du châtaignier, la graphiose de l'orme, etc. Donc, il y a aussi une interaction entre le changement climatique et ces aléas biotiques. Donc là, ce ne sont pas mon domaine de recherche, mais je préférais les lister. Donc si je reviens sur les aléas climatiques et notamment les sécheresses et les canicules, ce qu'on constate depuis maintenant une trentaine d'années dans un réseau dans lequel je participe international, où on recense les mortalités liées à des sécheresses à travers le globe, on s'aperçoit que depuis 30 ans, on a une augmentation de l'occurrence de mortalité qu'on appelle massive, c'est-à-dire plusieurs centaines d'hectares à chaque fois, où on constate une mortalité juste après ou quelques années après un événement de sécheresse extrême. Pourquoi juste après ou plus tard? Parce que la sécheresse peut avoir un impact très rapide, mais peut aussi avoir un impact où on observe de la mortalité pendant 1, 2, jusqu'à 3 ans après l'événement de sécheresse. Notamment, si je prends l'exemple de l'année 2022 en France, on a eu une surmortalité dès la première année, mais on a constaté aussi de la mortalité engendrée par cette sécheresse de 2022 jusqu'en 2025. Donc, ces événements climatiques, j'aime bien les dissocier entre ce qu'on appelle la sécheresse et la canicule, puisque là, on est dans le débat actuel avec ces deux canicules extrêmes qui ont touché la France au cours des 2 derniers mois, celle du mois de mai et celle du mois de juin, hein, très récemment. Donc la canicule, c'est donc une très forte température avec une hygrométrie de l'air très faible, donc moins de 20%, on va dire, d'hygrométrie de l'air, et des températures supérieures à 35 qui peuvent aller au-delà de 40. C'est la combinaison de cette forte hygrométrie et température conduisent à ce qu'on appelle une forte demande évaporative, c'est-à-dire que la plante a besoin de transpirer énormément pour refroidir ses températures de surface, c'est-à-dire les feuilles. Or, au mois de mai, lorsque cette canicule a eu lieu, il y avait assez d'eau dans le sol. Je ne dirais pas qu'il y en avait beaucoup, mais il y en avait. Le mois d'avril est un mois qui, cette année, a été relativement sec, mais il y avait un peu de l'eau au mois de mai, donc il n'y a pas eu d'impact visible de la canicule, pardon, au mois de mai, puisque les besoins en eau de la plante ont pu être assouvis, puisque la plante a pu absorber de l'eau au niveau du sol pour refroidir les feuilles. Par contre, il y a un effet indirect de cette canicule qui fait que sur la sécheresse, puisqu'elle va induire une surconsommation d'eau par transpiration, et donc elle va faire entrer l'écosystème dans une sécheresse beaucoup plus précoce. Et donc la deuxième qui est survenue au mois de juin, où nous avons battu des records de température, notamment donc avec une très très forte demande évaporative. Celle-ci s'est produite sur des sols qui étaient beaucoup plus secs. Il n'y a pas eu quasiment pas eu de précipitation au mois de juin. Donc les sols étaient beaucoup plus secs, mais il y restait encore assez d'eau pour transpirer. Alors peut-être pas exactement avec les besoins de la plante à ce moment-là, quand il y avait 40 degrés, la consommation en eau est remarquable, c'est-à-dire plusieurs centaines de litres pour un individu, pour un chêne adulte par exemple. Donc il faut qu'il y ait énormément d'eau dans le sol. S'il n'y a pas assez d'eau, ça conduit à ce qu'on appelle un dysfonctionnement hydraulique, c'est-à-dire que la plante va tirer de plus en plus fort sur la colonne d'eau pour absorber cette eau au niveau du sol et pour l'amener jusqu'aux feuilles. Et donc, si elle tire de plus en plus fort, il peut y avoir une rupture hydraulique, donc par l'apparition de bulles d'air au sein de l'appareil vasculaire, au sein des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle l'embolie vasculaire. Comme l'embolie pulmonaire, hein, laisse qu'il y a des bulles d'air. On va rompre le transport de l'eau et ça conduit à un dessèchement de certaines branches, un dessèchement foliaire. S'il n'y a pas assez de transpiration, il y a aussi un dessèchement clair du feuillage, puisque la plante ne peut plus refroidir ce feuillage, et s'il fait 40 degrés, on constate donc de la mortalité de feuilles. Ce mois de juin, nous n'avons pas constaté de mortalité foliaire ou de mortalité de branches à ce jour, parce qu'il y avait toujours assez d'eau au niveau du sol. Par contre, la batterie de capteurs qui sont installées sur nos 7 espèces dans nos forêts expérimentales ont montré que certaines espèces, pour ne citer que le frêne, étaient très très proches de son seuil de rupture. C'est-à-dire que la tension qu'il faut pour rompre la colonne d'eau, passe les détails, mais de l'ordre de moins 3,5 mégapascales pour le début de l'embolie vasculaire chez le frêne, et on était à moins 3,4 mégapascales de tension la semaine dernière au sein de cette espèce. C'est-à-dire qu'on était très très proche de son seuil de rupture. Donc si la sécheresse perdure et qu'on a encore un événement de canicule qui, comme annoncé la semaine prochaine, on peut d'ores et déjà prédire qu'on va aller franchir ce seuil, induire de l'embolie vasculaire chez le frêne et d'autres espèces, qui vont conduire donc à un dessèchement de certains organes, mortalité foliaire. Et si cela continue, bien sûr, on pourra constater de la mortalité d'individus, comme on l'a observé en 2022 et 2025. La particularité cette année, c'est qu'on est sur une sécheresse extrêmement précoce, qui a été fortement accentuée par ces deux événements de forte chaleur. Et donc, si le mois de juillet s'avère aussi sec que le mois de juillet 2022, on va au-devant d'une sécheresse exceptionnelle. En termes d'impact sur l'écosystème forestier, ce qu'on a observé également, c'est que on va avoir certaines espèces qui sont fortement défavorisées parce qu'elles sont plus vulnérables à la sécheresse que d'autres espèces. Et donc, ce qu'on observe, c'est une remontée des espèces méditerranéennes, notamment dans le sud-ouest de la France, avec des espèces comme le chêne vert, le chêne pubescent, qui ont tendance à coloniser au détriment d'autres espèces comme le chêne pédonculé, qui lui des taux de mortalité relativement importants après les sécheresses. Et donc, on a des populations qui sont de plus en plus réduites, notamment le long du cordon littoral atlantique, où il reste plus que quelques individus sur la dune, alors que le chêne vert, lui, on le compte par dizaines de milliers à l'hectare, avec une densité exceptionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous une méditerranéisation du climat, avec une remontée du biome méditerranéen qui remonte vers le nord. On a d'ailleurs mesuré la vitesse de migration de certaines de ces espèces, donc le chêne vert qui est notre espèce modèle. Le chêne vert remonte à peu près avec une vitesse de migration de l'ordre de 50 mètres par an, alors que le climat remonte de 2000 mètres par an. Donc en aucun cas, il ne pourra suivre la vitesse de remontée du climat telle qu'elle se fait aujourd'hui. Sans que, on va dire, l'aide de l'homme, parce que bien sûr, si on transporte les glands et qu'on les transporte de Bordeaux à Nantes, bon, le chêne vert va remonter extrêmement rapidement. Par contre, la vitesse de migration, on va dire, naturelle, est relativement trop faible pour suivre la remontée du climat à l'heure actuelle. La dernière chose que je voudrais préciser, c'est que, je l'ai dit au tout début, les arbres ont des fortes capacités adaptatives, notamment pour ce qui est de la phénologie, j'en ai parlé, ils sont capables d'adapter leur date de débourrement de façon précoce ou plus tardive selon les conditions climatiques. Par contre, vis-à-vis de la sécheresse, on appelle les caractères de résistance à la sécheresse, ils sont beaucoup plus contraints génétiquement et les arbres ne sont pas capables de mettre en place un appareil vasculaire beaucoup plus résistant à la sécheresse après 2 années de sécheresse, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de modifier les propriétés intrinsèques de leur vaisseau pour devenir plus résistants à la sécheresse. Donc, ça veut dire que toutes les populations qui se trouvent en limite sud de leur aire de répartition, le chêne pédonculé qui est dans toute l'Europe. En Scandinavie, il se porte très bien. Le changement climatique a même tendance à favoriser sa croissance. Par contre, dans sa marge sud, on va dire sud-ouest de la France, là, cette espèce est en train de reculer très fortement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable de mettre en place un appareil vasculaire plus résistant à la sécheresse. Et donc, c'est la sécheresse qui est en train de la faire reculer.
Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Breda, je suis ingénieure des travaux des eaux et forêts, docteur en écophysiologie et directrice de recherche au centre INRAE Grand Est, basé à Nancy-Champenoux. Alors, pour ma part, je travaille sur les dépérissements forestiers, qui sont des dysfonctionnements complexes, qui se déroulent sur plusieurs années, et en général, il résulte d'interactions entre plusieurs aléas, plusieurs forces, on va dire, des fragilités des arbres et au final des effets cumulatifs sur la physiologie des arbres. Alors pour étudier ces dysfonctionnements, on combine le plus souvent deux approches complémentaires. D'une part, de l'observation à long terme de ce qui se passe en direct en forêt, et puis des analyses rétrospectives nous permettent de remonter dans le temps à travers la lecture des cernes des anneaux de croissance des arbres pour dater, interpréter l'origine des dysfonctionnements, ce qu'on appelle la dendrochronologie ou la dendroécologie, quand on cherche à relier ces accroissements avec les facteurs de l'environnement. Chacune de ces méthodes vise à objectiver l'état de santé de la forêt et de repérer si la santé des arbres se dégrade, pourquoi et par quel mécanisme. Donc, pour répondre à ces questions, il nous faut d'une part donc observer et quantifier des symptômes, ce qui permet d'objectiver que quelque chose ne va pas, que la forêt ici ou là n'est pas en bonne santé, que ça ne fonctionne pas normalement. Et donc ça, ces symptômes, cette symptomatologie repose sur plusieurs critères, par exemple des critères visuels sur le feuillage des arbres. Ben, il n'y a pas assez de feuilles, il manque des aiguilles, un taux de branches mortes important, des ramifications qui ne se font pas normalement, voire des colorations du feuillage anormales. Ce sont en général des symptômes très visuels et ce sont ceux qui alertent le plus souvent les citoyens, les forestiers et souvent les journalistes. On a un autre critère qui est la croissance des arbres et ses fluctuations au cours du temps. C'est un indicateur très performant, intégrateur et qu'on prospecte donc par dendrochronologie. Il nécessite des investigations en laboratoire. Et puis, nous avons aussi des indicateurs écophysiologiques qui permettent de caractériser le statut de l'arbre du point de vue de son fonctionnement hydrique, carboné, nutritionnel et en particulier azoté. Et là aussi, ça nécessite des prélèvements d'échantillons sur les arbres et des analyses en laboratoire. Alors, ce symptôme, c'est sympa, mais ça présente une difficulté, c'est que ces informations, ces observations ne renseignent pas sur la nature du phénomène à l'origine du problème. Et par exemple, un symptôme très spectaculaire comme la chute prématurée du feuillage en été ou bien un changement de couleur n'est pas forcément synonyme de gravité. Et au contraire, ça peut traduire une réponse d'évitement des arbres à la sécheresse, par exemple. Une fois qu'on a ces observations, on cherche à comprendre et à reconstituer la dynamique, l'enchaînement des processus qui aboutissent au dépérissement, c'est-à-dire à une perte de vitalité des arbres, qui n'est pas forcément irréversible et qui n'entraîne pas nécessairement à la mort de l'arbre. Alors, on utilise donc l'ensemble des observations, des symptômes que je viens de décrire, une caractérisation et une quantification précise des aléas. Si c'est une sécheresse, il faut la dater, mesurer son intensité. Si c'est une attaque de ravageurs, eh bien, il faut la cartographier, déceler quel est l'insecte en question, identifier la maladie, et son extension spatiale et son intensité. Et puis ensuite, en associant à tout ça notre expertise en gestion forestière et notre connaissance de la physiologie des arbres, eh bien, on recherche les causes fines du dysfonctionnement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éthiologie des dépérissements. Et donc, vous comprenez tout de suite que dans cette démarche, dans cette recherche, il y a nécessité d'une approche pluridisciplinaire qui mobilise des compétences en écophysiologie, en bioclimatologie, en entomologie et en pathologie forestière, en écologie, en dendroécologie et en sciences forestières. Alors, l'autre point important sur l'étude des dépérissements forestiers, c'est que ça s'inscrit dans un temps long, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la réponse à un événement aussi extrême soit-il, instantané et à court terme, mais on travaille sur du temps long, ce qui constitue un prérequis indispensable pour comprendre ce qui se passe avant d'identifier des solutions d'adaptation et identifier où sont les leviers sur lesquels la gestion et l'action de l'homme peut intervenir. Les principaux facteurs de fragilité, donc de vulnérabilité des arbres au dépérissement, sont liés à différentes composantes. D'une part, c'est lié au milieu, donc au sol, à sa physique, à sa fertilité hydrique et minérale, dont dépendent les capacités d'enracinement des arbres, et puis au climat local. On a aussi des facteurs de fragilité qui sont liés aux arbres eux-mêmes, l'espèce, son origine génétique, son âge, ses performances de croissance, son statut de dominance dans le peuplement. Et enfin, des facteurs qui sont souvent ignorés, qui sont liés à la gestion, à la sylviculture, donc à l'action de l'homme, à travers des densités de peuplement ou l'accumulation de gros volumes de bois dans les parcelles. Les principaux aléas qui enclenchent ces processus de dépérissement sont toujours multiples, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une sécheresse qui induit un dépérissement, c'est une sécheresse combinée à d'autres facteurs qu'on classe en deux groupes. Il y a les facteurs principalement climatiques, comme des anomalies de température, qui peuvent être des températures chaudes, mais aussi des températures froides, des anomalies de disponibilité en eau dans le sol, qui peuvent être des excès d'eau autant que des déficits hydriques, donc des manques d'eau. On a des aléas plutôt de nature biotique, donc qui sont liés à des organismes vivants qu'on appelle des bio-agresseurs. Alors, ça peut être des insectes ou des maladies. Parmi les insectes, on distingue les insectes primaires comme des défoliateurs qui vont s'attaquer à tous les arbres du moment que leurs feuilles sont compatibles avec leur fonctionnement. Et puis des insectes secondaires comme les scolytes qui, eux, ne s'attaquent principalement qu'à des arbres déjà affaiblis par un précédent stress. Pour les maladies, pareil, on a des maladies sur les arbres forestiers qui sont principalement des maladies liées à des champignons et qui s'attaquent aux feuilles, aux racines, voire aux tissus conducteurs, aux xylèmes, aux vaisseaux, et là aussi qui peuvent être des maladies primaires ou secondaires qui ne colonisent que des arbres affaiblis. Dans la pratique, lorsqu'on doit étudier un dépérissement, nous mettons en œuvre des enquêtes pour dater le phénomène, identifier sa nature, son extension, spatiale et temporelle. On en cherche à caractériser l'intensité et la date d'occurrence des aléas climatiques ou des attaques d'insectes. On cherche à comprendre ce qui a pu aggraver la réponse des arbres et on cherche à déterminer le statut physiologique des arbres parce que ce statut physiologique nous permet le plus souvent de prédire les capacités de récupération ou non, c'est-à-dire d'identifier si les arbres sont sur le point de basculer vers la mort ou s'ils peuvent récupérer. Je vais terminer avec un exemple concret. On termine une étude de dépérissement de la hêtraie en région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, où nous avons mobilisé tous ces outils. Et nous avons pu conclure que l'aléa primaire qui a enclenché le processus de dépérissement est l'anomalie de sécheresse des années 2018 à 2020. On a pu aussi démontrer que les arbres n'étaient pas morts de soif, même s'ils ont rapidement exprimé des symptômes visuels. Ils ne sont pas morts l'année de ces sécheresses. Les arbres les plus impactés par cet aléa étaient ceux dont la croissance radiale n'avait pas récupéré depuis des sécheresses anciennes, en particulier 2015, mais aussi 2003. Il y a donc un effet mémoire des aléas passés qui prédispose les arbres, qui les rend plus fragiles à des stress futurs. On a aussi montré que l'épuisement physiologique des arbres était aggravé par la présence d'insectes secondaires, l'écorce, en particulier des scolytes, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas des scolytes que sur les épicéas dont on entend parler, mais il y a des scolytes spécialisés dans toutes les espèces d'arbres. Et on a constaté la mort de certains individus dans les 5 ans qui ont suivi l'événement, et ça, c'était lié à un épuisement de leurs réserves en carbone. Et au contraire, on a identifié certains individus qui contenaient des niveaux de sucre suffisants dans leur tronc et qui ont été résilients, c'est-à-dire qui ont été capables de reconstituer le feuillage après la crise et à reprendre une croissance comparable à celle qu'ils avaient avant la sécheresse de 2018. Et donc ça, c'est important parce qu'être capable de reconnaître les individus résilients est une attente forte des sylviculteurs pour savoir lesquels on peut couper parce qu'ils ne vont pas récupérer et ceux, au contraire, qu'il faut garder en forêt parce qu'ils vont se refaire une santé. Voilà, nous avons aujourd'hui une vision assez systémique de ces processus qui ont été décrits depuis très longtemps sur de nombreuses espèces forestières dans divers contextes climatiques et résultant de différents accidents. Je termine en précisant que ces recherches sur le dépérissement forestier sont très anciennes et ont préexisté avant qu'on parle de changement climatique et que chaque événement extrême, comme la sécheresse de 1921 ou la sécheresse de 1976, ont enclenché des processus de dépérissement dans nos forêts.